Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et aujourd'hui, nous n'allons pas uniquement dénouer le fil de la mode telle qu'elle est aujourd'hui, mais nous allons dénouer le fil de son histoire et surtout comprendre pourquoi ce dernier est le fil d'Ariane de notre histoire humaine, sociale et culturelle. Car le vêtement est une chose beaucoup plus sérieuse qu'il n'en a l'air. Il raconte notre classe sociale, notre genre, notre métier, notre morale et notre rapport au corps et même au pouvoir. Autrement dit, ouvrir une armoire, c'est aussi ouvrir l'histoire du temps. C'est ouvrir celle d'un individu comme celle de son époque. Et regarder une tenue, c'est souvent en apprendre bien plus qu'en lisant un traité politique. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une historienne de la mode dont le travail se situe au croisement de la recherche, de l'enseignement et de la connaissance concrète, puisque elle-même a travaillé au cœur du patrimoine d'une maison absolument indispensable à l'histoire de la mode. Puisque après avoir travaillé au sein des archives documentaires de la maison Yves Saint-Laurent, elle enseigne aujourd'hui l'histoire de la mode à l'École des arts décoratifs. Alors, j'arrête ce suspense et je vous présente avec grand plaisir Guénolé Milleret. Alors, je la reçois aujourd'hui dans le cadre justement de cours du soir qui se lance avec le Musée des arts décoratifs, auquel vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire sans tarder pour la rentrée. Mais pour parler de ses activités de façon plus large, Guénolé Milleret a également constitué un fond iconographique particulièrement précieux pour comprendre la manière dont les silhouettes, les objets et les imaginaires vestimentaires circulent à travers le temps. Et avec elle aujourd'hui, nous allons donc évidemment parler de ses cours du soir, mais pour comprendre ce que vous allez pouvoir y découvrir, c'est une sorte d'introduction qui peut titiller votre curiosité. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver le podcast sur l'Instagram Décousu Podcast, que vous pouvez bien évidemment y partager cet épisode s'il vous a plu. Allez, moi, je vous laisse avec cet épisode et je vous souhaite une très bonne écoute. Donc aujourd'hui, pour Décousu, j'ai le plaisir de recevoir Madame Guénolé Milleret pour parler de quelque chose d'assez intéressant qui se passe actuellement dans son actualité, mais également pour parler de façon plus générale du rapport de la mode à l'histoire de l'art et à l'histoire de l'humanité en règle générale, si on peut dire. Donc pour commencer, comment allez-vous, Guénolé ?
Je vais très bien, merci beaucoup et merci pour votre invitation.
Eh bien, écoutez, je suis ravie. Alors, pour commencer, pour les auditeurs qui ne vous connaîtraient pas et connaîtraient pas forcément votre parcours, est-ce que vous pourriez vous présenter, dire un petit peu ce que vous faites, en quoi vous travaillez et pourquoi c'est intéressant notamment de vous recevoir aujourd'hui ?
Bien sûr. Alors, moi, j'enseigne l'histoire de la mode et du costume à l'École nationale supérieure des arts décoratifs à Paris. Et en parallèle, je publie des ouvrages sur ce vaste sujet qui est l'histoire de la mode et des arts décoratifs un petit peu plus largement parlant, à partir de mes archives et d'archives diverses que je collecte au gré des sujets que j'embrasse. Donc là, depuis 3-4 ans, je travaille spécialement sur les métiers de la mode, les savoir-faire, ce qu'on appelle les métiers d'art, mais ceux appliqués à la mode. Les savoir-faire du bottier, du plumassier, du parurier floral, du modéliste, bien sûr, et de la couturière, évidemment. Donc ça, c'est mon champ de recherche actuel. Pourquoi j'en suis arrivée là ? En fait, je n'ai pas du tout un parcours universitaire. J'ai travaillé 15 ans chez Yves Saint-Laurent.
D'accord.
Je suis rentrée au milieu des années 90.
Ah, c'est intéressant.
Voilà. À l'époque... fondatrice, j'étais passionnée par la mode, mais je n'avais pas les sous pour faire une école de mode. Et grâce à mes bonnes connaissances en langue, j'étais quasiment bilingue en anglais à l'époque et encore à peu près aujourd'hui. Mais voilà, j'ai réussi comme on y arrivait encore à ces époques-là, c'est-à-dire à rentrer par le bas de l'échelle. Et puis petit à petit, je me suis passionnée pour l'archive dans cette maison qui était déjà extrêmement conséquente. Hein. C'est une maison qui est Monsieur Saint-Laurent a créé entre 1962 et 2002, hein, ces 40 années de patrimoine, c'est énorme. Et grâce à cette appétence et cette bonne connaissance de l'archive, quand la maison Gucci à travers PPR, qui est aujourd'hui Kering, a racheté le prêt-à-porter de Monsieur Saint-Laurent en 98. On m'a proposé de créer un service d'archives dédié aux stylistes.
C'est ça, parce que quelque chose qui est particulièrement important, désolée je vous coupe, mais c'est l'importance qu'a eu justement la Maison Saint-Laurent pour la dimension même de l'archive dans la mode. Donc vous étiez vraiment au cœur du réacteur.
Absolument. La Maison Saint-Laurent était très pionnière en la matière parce qu'à l'époque, très peu de maisons s'intéressaient à ces archives. Mademoiselle Chanel elle-même disait qu'elle ne s'intéressait pas du tout au passé. Dans la droite ligne, Karl Lagerfeld parlait de ce qu'il avait fait comme du chiffon et que ce qui était intéressant, c'est ce qu'il allait faire. Et il n'y avait pas vraiment, de conscience de l'importance de l'archive comme matière pour la création. C'était fait. Or, la Maison Saint-Laurent a commencé à collecter, à réunir des sélections de vêtements prêt-à-porter ou de couture à chaque collection. On appelait déjà ça en interne le musée, était dirigé à l'époque par Hector Pasquale, avec vraiment une dimension assez artisanale, je dois dire, avant que la Fondation Pierre Berger Yves Saint-Laurent n'organise les choses de manière beaucoup plus scientifique et muséographique au tournant des années 2000. Donc ça, c'est une démarche parallèle, et la mienne, en fait, est greffée autour de l'accessoire et de la chaussure en particulier. Donc on a décidé que j'allais piloter un projet parallèle. Et quand la maison a été rachetée, il y a eu un gros plan social, excusez-moi pour le bruit. Et là, effectivement, on m'a proposé cette solution me concernant, qui me passionnait. C'était un vrai, vrai challenge pour moi. L'idée étant non pas de gérer l'archive physique, textile, mais documentaire. Et donc, j'ai mené ce projet entre 98 et 2008. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec Albert Elbaz, avec Tom Ford, avec Stefano Pilati, les directeurs artistiques successifs à la tête de cette magnifique maison. Je parle bien sûr pour le prêt-à-porter, sachant que Monsieur Saint-Laurent a décidé de cesser de présenter des collections de haute couture en 2002. Oui. Il est décédé quelques années plus tard. Donc, en fait, cette histoire chez Saint-Laurent a eu deux grands volets, avant et après la haute couture. Et voilà, je me suis énormément formée. Mais aussi, cette formation, elle est bien plus que professionnelle. C'est une formation esthétique, mais aussi une formation entrepreneurial, parce que ces maisons, c'était bien plus que des entreprises. D'ailleurs, ça s'appelle maison, c'est pas anodin. C'était d'une grande famille. Alors, je veux pas dire ça au sens romantique du terme, parce que c'est pas vrai, mais on était vraiment très engagés. On se sentait missionnés.
Il y a presque un côté identitaire dans les équipes, en fait.
Oui, voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui a été complètement bouleversé après la succession de rachats et de toutes les grandes maisons, Balenciaga, Dior, Saint-Laurent.
Oui, bon, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de façon assez générale, c'est vrai, dans l'histoire de la mode. Mais du coup, à partir de là, comment est-ce que ça s'est passé ensuite pour vous, pour commencer à vraiment devenir enseignante, à rédiger, à écrire là-dessus et à vraiment vous rapprocher aussi de PSL, etc.
Bien sûr, alors que j'étais donc responsable de ce département d'archives, j'avais été contactée, la maison m'avait demandé de participer au Festival de la mode à Hyères, je crois que c'était en 2002 ou en 2003, pour participer à une table ronde qui évoquait justement la manière dont les maisons commençaient à gérer leurs archives. Je parle de manière très concrète, avec quels outils informatiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'outil numérique, je veux dire, tout le monde le connaît, mais à l'époque, une base de données, c'était très, très, très avant-gardiste. On n'avait ni réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de Pinterest, rien du tout. Donc, on parlait d'appareils photo numériques professionnels uniquement et encore moins de smartphones. Donc, c'était vraiment, vraiment, technologiquement parlant, très innovant. Et donc, j'ai bien sûr accepté, avec ma casquette, encore une fois, de responsable d'archives, donc chez Yves Saint-Laurent. Et j'ai fait la connaissance de Florence Muller, qui est aujourd'hui la curatrice de l'Art Institute de Chicago, et également de Farid Chenoun, qui nous a quittés malheureusement il y a quelques années, qui a été un brillant enseignant d'histoire de la mode à l'IFM et aux Arts Déco. Et en fait, cette rencontre a été aussi extrêmement fondatrice parce que je suis intervenue en public pour la première fois de ma vie à raconter ce qu'on faisait et comment on le faisait. Et Farid et Florence m'ont invitée à l'IFM pour faire cette même présentation. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à communiquer dans les écoles et j'ai trouvé que c'était passionnant. Et comme j'avais acquis une très bonne connaissance d'histoire de la mode consolidée par des cours organiques et des cours du soir à l'école du Louvre que je prenais en formation continue à l'époque, en parallèle de mon job, et bien sur l'invitation d'un certain nombre de personnes que j'ai pu croiser, comme Gilles Rosier à S-Mode, qui m'a invité à intervenir à l'École nationale des arts déco. Et bien, petit à petit, l'oiseau fait son nid et j'ai commencé à enseigner de cette manière-là. Et le fait de publier est venu aussi tout naturellement parce que j'avais géré un fonds d'archives très important, à la fois Saint-Laurent, mais aussi beaucoup plus large, qui évidemment était la propriété propre de la maison Saint-Laurent et que j'ai laissé quand j'ai quitté la maison en 2008. Néanmoins, j'avais moi-même une casquette de collectionneuse depuis très 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 longtemps, collection de gravures 19e et puis 18e, et puis la collection s'est étendue avec le temps. J'en ai fait une banque d'images parce que j'avais cette compétence-là. C'était pour le coup ma propriété.
Et ça, c'est Guénot-Miller, non? Il me semble Guénot-Miller, Guénot-Miller.
C'est ça, c'est une banque d'images qui est complètement accessible sur le net aujourd'hui, imagesguenomiller.com. Et qui est gratuit.
C'est Guenomiller, voilà, pour les auditeurs.
Voilà. Et devant, c'est images au pluriel, donc tout accroché. Et c'est accessible sur mon site. Il y a un onglet iconothèque et il y a 17 000 documents. Et pas seulement mode, parce que étudier la mode, c'est pas seulement étudier des vêtements, c'est aussi étudier des configurations, des modes de vie, des intérieurs, du décor, du textile évidemment, des motifs. L'architecture aussi extrêmement importante parce qu'on s'habille et on vit parfois de manière très analogue. Donc, tout ceci.
Bah alors, justement, on va pouvoir rentrer maintenant un peu plus dans le détail du sujet parce que ce qui va être intéressant, et c'est vrai que sur Décousu, on a déjà eu l'occasion de recevoir des historiens, des auteurs vraiment qui ont pu analyser cette question. Et justement, ce que j'aimerais pouvoir aussi développer avec vous, c'est l'importance de la mode en tant que matière historique et j'ai envie de dire également sociologique. Vous en avez parlé en parlant du fait que la mode n'est pas uniquement une question de vêtements, mais touche aussi à notre rapport à la société de façon plus générale. Donc, notamment par rapport aux cours qui sont aujourd'hui, donc, que vous dispensez notamment via PSL, dont on va parler. Pourquoi est-ce que selon vous aujourd'hui, la mode, pour comprendre nos sociétés, c'est un indispensable?
Déjà parce qu'on sort de chez soi le matin vêtu et que la manière dont on s'habille, c'est un premier indice de qui on est ou de qui on veut cacher, ça dépend. Quand on se donne à voir sur le théâtre de la société, à partir du moment, encore une fois, on passe le pas de sa porte, on rentre sur une scène, une forme de scène théâtrale, au bureau, dans la rue, dans les transports. Et cette manière dont on s'habille, dont on se coiffe, dont on se pare, qu'on soit homme ou femme, dont on se maquille également, va donner des indices ou même masquer aussi des informations par rapport à qui on est. Et ça dépend si on veut s'habiller de manière très ample. Peut-être veut-on cacher quelque chose ou chercher du confort quand on s'habille de manière très ajustée. Peut-être veut-on, encore une fois, assumer une certaine partie de pan de sa personnalité. On joue finalement avec les vêtements ou à l'inverse, on joue pas du tout et on les utilise comme de simples objets pour protéger son corps sans raison aucune. Ça existe aussi. Donc ce spectre de possibilités quant à utiliser le vêtement, je vais pas dire exactement comme un comédien l'utilise sur scène, puisqu'on sait parfaitement que le costume de scène participe complètement à la construction du rôle du comédien, mais il y a quand même de ça dans le vêtement du quotidien, et à plus forte raison dans le vêtement paré de soirée, qui va aussi révéler et des indices quant à notre personnalité. Donc ça, c'est vraiment l'aspect plus personnel et intime. Et puis, il y a le cercle un peu plus large qui est familial, qui est sociétal. On s'habille d'une telle ou telle façon dans telle ou telle communauté.
Pour correspondre, pour appartenir. Oui.
Et en fonction des différents cercles qui vont s'élargir, voilà, le costume va devenir national, va devenir identitaire, va devenir religieux, va devenir politique et va se charger au fur et à mesure qu'on élargit le cercle d'un certain nombre de valeurs diverses et variées. Et c'est ce qui est absolument passionnant à étudier autour du vêtement qui a longtemps été qualifié, et la haute couture est fautive, mais c'est pas de sa faute parce que bien souvent quand on dit « Oh, tu travailles dans la mode, oh, la mode c'est futile », mais en fait pas du tout. Pas du tout, parce que la mode a souvent été corrélée à une certaine idée de luxe, d'un luxe qui est, encore une fois, critiqué, non nécessaire, et qu'on peut, auquel on ne peut pas accéder, donc on le critique, évidemment, ça c'est franco-français, mais la mode c'est pas ça, évidemment, et peut-être que pour corriger cette déviance-là, il faudrait parler du vêtement à proprement parler.
Tout à fait, ça, oui, oui.
Aussi attaché à ma posture à l'école des arts déco, c'est que nous, on n'est pas une école de mode, on est un département qui prend place parmi 10, 11 sections, l'objet, la scénographie et le vêtement. Et en fait, je trouve que ça fait beaucoup plus sens que d'étudier, d'approcher la mode d'un point de vue plus industriel, à mon sens. C'est vrai qu'aux arts déco, on a tous le loisir d'approcher le vêtement avec une approche beaucoup plus, parfois même philosophique et conceptuelle aussi. Qu'est-ce qu'un vêtement et comment le designer et pourquoi le designer et avec quels moyens le designer.
Oui, parce que c'est ça aussi, c'est-à-dire que dans votre approche, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas la mode en tant que système qui, on va dire, qui se regarde lui-même. C'est-à-dire que ça ne va pas être une analyse fermée et centrée sur la mode en elle-même, mais c'est aussi son ouverture et son lien avec justement les discours, les images, la façon aussi de prendre place dans la société. Donc en fait, c'est vraiment d'abord un outil sociologique. Et justement, ce qui est intéressant, et j'aimerais bien comprendre aussi cette dimension-là, c'est-à-dire que le vêtement, qu'est-ce qu'il permet d'aborder quand on veut essayer de réfléchir à l'histoire des hommes, donc on peut dire même quelque chose d'anthropologique ou de social, c'est-à-dire par exemple les différences en termes de classe sociale, en termes aussi d'évolution dans l'histoire, en termes de culture et d'identité. Quelles sont en fait les différentes thématiques que vous abordez? Est-ce que c'est quelque chose qui est diachronique, donc vous voyez l'évolution au fur et à mesure du temps? Est-ce que vous êtes centré sur une époque? Quelles sont en fait les différentes entrées que vous avez pour aborder la matière?
Alors, il y a beaucoup de questions dans la question et elles sont absolument fondamentales et vous pointez le cœur du sujet. J'ai coutume de dire que la mode n'est pas logique dans son évolution chronologique et c'est ce qui m'autorise à l'aborder souvent de manière plus décousue, puisque c'est le thème aujourd'hui, en tout cas non chronologique. C'est-à-dire, en tout cas, certes, on a toujours une approche chronologique pour... puisqu'on travaille autour d'une matière qui s'appelle l'histoire, mais en faisant des crossovers et en mettant en parallèle des allures. En fait, vous me demandiez dans la première partie de votre question quels outils j'utilise. Mmh. Effectivement, décrire une allure, c'est déjà un bon point de départ pour comprendre ce que raconte un vêtement. Est-ce que l'allure est contrainte? Est-ce que l'allure est naturelle? Est-ce que l'allure est colorée? Est-ce que l'allure est unifiée? Est-ce que l'allure est genrée? Vous voyez, toutes ces caractéristiques vont nous permettre de nous positionner dans une société qui est plutôt, encore une fois, contrainte politiquement ou plutôt libre. En fonction de la visibilité des différents membres du corps, pour la femme en particulier, on va peut-être comprendre qu'elle est peut-être plus libre. Et encore une fois, il faut approfondir parce que c'est pas toujours, parfois on a des faux indices. Donc, tous ces indices vont déjà nous permettre de comprendre comment évoluent les hommes et les femmes d'une société à un moment donné de l'histoire et aussi dans un lieu précis géographique tout autour de la planète. Donc ça, c'est aussi étudier l'allure est très important parce que vous pouvez porter un jean et un t-shirt d'une certaine manière, une manière très prépi, le t-shirt impeccable, blanc immaculé, le jean, peu importe sa forme, pareil, non troué, qui tombe parfaitement. Et à l'inverse, ce même jean et ce même t-shirt déchiré, troué, sali, on sera peut-être chez les beatniks. Et là, ils voudront dire tout autre chose. Donc, j'ai coutume de comparer l'allure à une recette de cuisine. C'est-à-dire que vous pouvez avoir exactement les mêmes ingrédients, mais la sauce, d'autres ingrédients vont venir twister la recette et lui donner une toute autre saveur. Et c'est ça qui est intéressant. Il faut vraiment faire la distinction entre le vêtement pris comme un objet.
Oui, et la relation qu'on a avec lui. Ou...
Voilà,
oui.
C'est ça.
D'accord.
Et puis, à partir du moment où on travaille avec ces outils-là, on s'aperçoit que, à l'inverse, il peut y avoir des vêtements très très différents portés dans le temps, qui n'ont rien à voir. Je pense à, pourquoi pas, un pourpoint de la Renaissance. Et puis, à l'inverse, une veste, n'importe quel type de veste, Norfolk par exemple, et on va se dire, bah tiens, ces deux hommes ont la même allure. Qu'est-ce qui se passe? Alors que leurs vêtements sont très très différents. Ces deux hommes sont plutôt virils, sont plutôt dans une moyenne d'âge, voilà, pas jeune, révèlent un statut politiquement correct. Et ça, c'est aussi très très intéressant parce que on va voir que certaines caractéristiques, je prends un autre exemple, par exemple l'ampleur, le côté oversized des rappeurs, on va le retrouver chez les outils, hein, c'est-à-dire
oui,
c'est voilà, les immigrés afro-américains pendant la Seconde Guerre mondiale qui portaient, on pense à Sammy Davis Jr., qui portaient des vestes beaucoup trop larges. Et ce côté oversize va caractériser une position underground, une position contestataire dans la société. Voilà, des grands outils et qui nous permettent finalement de croiser les époques. Parce que les hommes et les femmes sont les mêmes de tout temps, il ne faut pas se leurrer. Et justement, cette allure avec même des vêtements, des typologies vestimentaires radicalement différentes, avec même aussi des typologies textiles qui évidemment n'ont rien à voir entre elles, mais pour autant, je prétends qu'un mousquetaire de l'époque de Louis XIII assez similaire à un acteur des années 30 à Hollywood. Hein, il y a ce côté assez nonchalant, à la fois très très élégant et en même temps sportif. Et ça, c'est très intéressant de mettre en regard ces allures. C'est une chose qu'on pourrait pas se permettre en histoire de l'art pure et dure. À l'école du Louvre, vous commencez à étudier l'art sous la Mésopotamie et puis au bout de 3 ans, vous arrivez à l'art contemporain. Il y a une progression, chronologique qui est complètement universitairement correcte et à dessein, bien sûr. Le premier qui a mis Charivari là-dedans, c'est Camus. Malraux, hein, avec son musée imaginaire et qui commençait à comparer des statues de l'île de Pâques avec des statues de Jean Harpe. Et cette manière d'approcher les arts aussi est très intéressante, mais elle est beaucoup plus, encore une fois, contemporaine. La mode nous permet davantage, je pense, sans dévoyer la matière et sans mal approcher l'histoire, nous permet justement ce système de comparaison qui est extrêmement révélateur sur qui nous sommes. Parce que l'histoire se répète, on le sait par cœur, et nous sommes dans une époque aujourd'hui, dans ce 21e siècle extrêmement chaotique, finalement un moment de l'histoire des arts en général qui est très très similaire à la fin du 19e siècle, qui faisait coexister bon nombre de styles néo ceci, néo cela, et nous sommes aussi dans une redite éternelle de beaucoup beaucoup de styles. Donc comparer les époques, ça permet de prendre du recul sur la sienne et d'envisager aussi la suite.
Oui, parce que alors ce que je trouve absolument passionnant dans ce que vous dites là, et c'est pour ça aussi que je voulais vous avoir aujourd'hui, c'est-à-dire que les différentes thématiques qu'on a pu aborder sur Décousu concernant l'histoire de la mode traitaient vraiment de l'objet mode comme précisément cet objet analytique dont on allait non seulement faire aussi le support mais le sujet de la conversation et de l'analyse. Et en fait là, ce dont vous parlez, c'est que le sujet que vous abordez, finalement, c'est davantage la relation avec cet objet. Et donc, je pense notamment, là, on a beaucoup parlé du médiévalisme ces derniers temps, puisque, évidemment, à chaque fois qu'il y a une crise environnementale, une crise sociale sur l'utilisation excessive d'industrialisation ou de nouvelles technologies, on en revient, en fait, au Moyen-Âge comme un élément de fantasme. Et on l'a vu notamment au musée de Cluny, où il y a eu justement une exposition sur le faux du Moyen-Âge à partir du 19e siècle. Et donc là encore, on se dit qu'en fait, c'est dans le rapport qu'on a avec l'objet et toute la façon dont on a de se projeter dans celui-ci qu'il y a toute une histoire à faire. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire quand vous parlez d'allure, en réalité, c'est comment est-ce qu'on se projette dans cet objet-là ? Et ce que je trouve intéressant, c'est notamment sur le vêtement masculin. C'est vrai qu'aujourd'hui, forcément, tout ce qui va être broderie de petites fleurs ou des choses comme ça, on se dit « oh là là, c'est très féminin » ou même le rose et tout ça. Alors que si on regarde la façon dont les hommes s'habillaient et performaient en fait l'allure extrêmement masculine qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les costumes très serrés, en fait, l'allure est la même, alors que le vêtement est très différent. Donc, il y a aussi quelque chose que j'aimerais revenir avec vous, c'est... La question notamment du genre, de la morale, etc. Est-ce que vous abordez aussi dans vos cours la distinction entre le cadre social, donc vraiment la plus large, la façon dont les époques imposent aux individus de s'habiller, mais également à l'échelle beaucoup plus individuelle ? Est-ce que vous faites un peu un dialogue entre le social général et l'individu propre à lui-même dans votre façon d'aborder la chose ?
Oui, bien sûr, grâce justement... la posture de ce que j'appelle les fashion leaders, qui est une expression portée au crédit des frères Goncourt, c'est-à-dire qu'il y a, tout au long de l'histoire de la mode, un certain nombre de phares, de personnages qui, justement, ont créé une forme d'individualité très, très forte au travers du vêtement qui parfois devient une tendance. Hein. Je pense notamment au Nouveau Romantique avec le personnage de David Bowie qui a créé... à travers cette chanson Be Your Own Hero, le mouvement glam rock et toute cette mouvance des nouveaux romantiques. Donc il y a parfois, et je pourrais aussi citer Marie-Antoinette elle-même, hein, qui a certes ne peut pas camper à l'origine la posture de la grande couturière puisqu'elle ne tirait pas l'aiguille, mais elle a créé cette idée d'autonomisation de la création. C'est-à-dire qu'elle aimait tel ou tel type de bonnet ou elle préférait tel ou tel type de robe plus naturelle et confortable. Et elle les a mises à la mode, en fait, à travers cette posture très visible en tant que reine et donc de fashion leader. Et ça, c'est fondamental parce que c'est là où on comprend que les motivations profondes d'un seul individu peuvent devenir finalement universelles. Et en étudiant ces personnages qui ont laissé une trace plus ou moins... profonde et pour certaines même ces traces viennent du Moyen-Âge parce qu'on peut citer aussi Agnès Sorel qui était la maîtresse de Charles VII. On est à la fin du 14e siècle et 15e siècle et à ce moment-là on a cette femme qui était la Lady Diana du Moyen-Âge qui va creuser un décolleté, le creuser et on porte au crédit l'invention du décolleté à Agnès Sorel qui était une femme qui avait une plastique extrêmement parfaite au sens presque plastique du terme. Donc cette individualité-là, elle est très très importante et je pense qu'elle peut être très inspirante aussi pour nous, pour les hommes et les femmes au quotidien qui vont justement essayer de se distinguer. Néanmoins, c'est très très différent d'imposer un style propre dans une société dominée par le commerce.
Tout à fait.
À faire aujourd'hui. Alors peut-être qu'aujourd'hui les choses évoluent puisque nous sommes soumis à cette accélération, on parle de hyper fast fashion aujourd'hui et que beaucoup de gens s'en détournent heureusement et ça fait que louer hein, et surtout nos jeunes qui pour la plupart s'habillent en seconde main, alors même si la seconde main n'est pas toujours une
problématique, mais enfin c'est un autre sujet ça.
Voilà, mais en tout cas à ma génération, ne pas suivre la mode est quand même très très compliqué socialement parlant, parce que pointez-vous dans le métro à l'heure de pointe dans une tenue complètement différente du reste de la rame, tout le monde va vous regarder. Et assumer ce regard-là, c'est pas facile. Il y a que des gens comme Chanel qui ont assumé ça quand elle est arrivée dans un bal d'hôtel à Deauville, dans une robe noire qu'elle s'était confectionnée la veille, alors qu'il n'y avait que des femmes habillées comme des meringues, comme elle disait, oui. On ne trouve pas des pastels. Et elle était évidemment regardée par tout le monde, scrutée, observée et moquée. Donc, il faut avoir ce courage-là. C'est le courage des avant-gardes. C'est l'audace, encore une fois, de la personne qui innove. Et c'est pas facile dans une société qui est extrêmement uniformisée. On a les mêmes téléphones, on a les mêmes contenus frigidaires ou presque, etc., etc. Donc, être différent au milieu d'une foule, c'est compliqué. Et puis même d'un point de vue pratique, l'offre des magasins est ce qu'elle est. Et voilà, donc il faut effectivement avoir une sacrée audace pour oser ça. Et peut-être qu'on le trouve plus, je sais pas, chez les jeunes, ou il faudrait observer ça. Je suis pas convaincue que ce soit une question d'âge nécessairement. Mais en tout cas,
c'est une question de responsabilité sociale, dans le sens où quand on est jeune, on n'appartient pas à un cadre social, enfin, qui est moins rigide en tout cas.
C'est ça. Mais effectivement, cette approche plus individuelle que vous pointez, qui est fondamentale, elle est très complexe à étudier, parce qu'il y a soit le cadre contemporain où là on a affaire à une étude à proprement parler sociologique. Et si on va rechercher dans l'histoire, dans les différentes strates successives de l'histoire, là il faut vraiment soit se plonger dans un certain type d'archives qui est de l'ordre de la chronique, ou peut-être aussi l'archive presse type journaux pas tant de mode luxueux, mais plutôt journaux de la femme, de la mère au foyer, ce genre de choses, où là aussi on va observer peut-être certaines démarches et encore, mais sinon c'est vrai que c'est compliqué à aller trouver autrement qu'à travers les icônes de la
oui,
mode.
Oui, en plus, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est que c'est un sujet du quotidien, donc en fait, souvent dans les sources historiques, c'est pas quelque chose qui, par essence, relevait l'importance du commentaire, en fait. C'est les choses qu'on ne commente pas qui font tout l'histoire du quotidien, et donc c'est paradoxalement très compliqué d'avoir des sources là-dessus.
C'est là où j'engage énormément mes étudiants à interroger les personnes plus âgées dans leur famille, qui souvent ne parlent pas, nous ne sommes plus une culture orale, malheureusement. Les conversations se sont beaucoup éteintes avec succès successivement à la maison, avec succès successivement à la télévision et les smartphones. Mais
oui,
je pense qu'on peut collecter, enfin, moi je l'ai beaucoup fait, et certains de mes étudiants ont compris aussi l'intérêt de le faire, notamment dans le cadre de la rédaction de la mémoire d'études en M1. Et c'est vrai que cette collecte-là, elle est extrêmement précieuse. Enregistrer les personnes âgées, les grandes-tantes, les grands-mères, les grands-parents de manière générale, et conserver cette parole-là, moi c'est ce que j'appelle la petite histoire de la grande histoire, c'est ce qui passe sous les radars, et moi c'est ce qui m'intéresse énormément à récolter dans mes recherches autour des artisanats de la mode.
Oui, alors c'est ça que je trouve extrêmement intéressant, et encore une fois, c'est précisément pour cette raison que la mode est un sujet et une ressource sociologique absolument passionnante. Mais justement, là, j'aimerais bien parler aussi, peut-être, là c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du vêtement et à raison, comme vous l'avez dit plus tôt, mais aussi peut-être du système de la mode en tant qu'économie. C'est-à-dire, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous abordez, notamment l'importance, par exemple, qu'a pu avoir l'économie textile sur l'allure, même je pense, par exemple, vous parliez de Marie-Antoinette, mais par exemple sur l'évolution du port du coton avec les Indiennes, également avec l'arrivée des mousselines, des routes de la soie, l'arrivée aussi du polyester, du synthétique, etc., qui aussi sont des choses qui ont eu un énorme impact sur le port du vêtement, sa diffusion sociale, même individuelle, etc. Donc, est-ce que vous avez aussi un œil qui est plus peut-être économique et industriel sur le textile en lui-même qui permet aussi d'aborder la façon dont on va après se l'approprier en tant qu'individu?
Alors évidemment, et quand j'ai publié cette histoire de la haute couture en 2015, à l'époque chez Erol, j'ai pointé et mis en exergue le lien fondamental entre l'industrie textile et la haute couture, et j'en reparle là tout récemment dans mon dernier ouvrage qui s'appelle l'atelier de la couturière, où je fais un tour de France des bassins textiles. Il y a toujours eu un rapport de collaboration entre l'industrie textile et cette industrie de la création qu'est la haute couture, et dont va être décliné le prêt-à-porter le prêt-à-porter de luxe, le prêt-à-porter moyenne gamme. Donc, ces liens sont indéfectibles, extrêmement importants. On pense bien sûr au soyeux lyonnais, mais pas seulement, au bonnetier du nord de la France, à Troyes également, donc au tissage de laine aussi en Occitanie, tout ce qui est embellissement textile, broderie en Normandie, en Bretagne, de même que la dentelle, évidemment. Donc ce lien, et là je ne parle que de la France, bien sûr, mais
oui, parce que évidemment il y a aussi les broderies indiennes, etc.
Oui. Non, bien sûr, les soirées initiennes, etc. Donc ces liens, ils sont fondamentaux, et ce sont des liens au-delà même de je te commande ce tissu parce qu'il est magnifique. On pense à Bianchini qui a été un fournisseur historique de pas mal de maisons de haute couture tout au long du XXe siècle. Ce lien, c'est aussi un lien d'entraide, hein, c'est-à-dire que l'industrie de la haute couture naissante avec Charles Frederick Worth a permis de relancer là, les soyeux lyonnais à une époque où ils travaillaient essentiellement pour le monde de l'ameublement. Et c'était difficile parce que les femmes à l'époque disaient « Non, moi je ne veux pas m'habiller comme un fauteuil. Mm-hmm. » Et Worth, évidemment, était un très, très grand acteur de la relance des soyeux lyonnais. Et puis à l'inverse, pendant la Seconde Guerre mondiale, quand la haute couture a tant souffert, parce que bon nombre de maisons n'ont pas fermé, contrairement à ce qu'on pense pendant l'occupation de l'Allemagne nazie. Et bien, à ce moment-là, l'industrie textile a été un appui pour la haute couture.
Oui, et alors ça, c'est passionnant. Il y a une formidable série là-dessus, d'ailleurs, avec Juliette Binoche, qui s'appelle... Ah mince, je n'ai plus le nom, mais qui parle justement de tout ces, aussi la place qu'a eu Gabrielle Chanel sur tous ces enjeux-là, et qui parle aussi de la difficulté pour beaucoup de couturiers qui étaient homosexuels, justement, de en fait continuer à exercer parce que sinon ils étaient menacés aussi dans leur intimité. Donc en fait, il y a aussi énormément de choses qui recoupent ces enjeux-là.
À l'histoire de la haute couture pendant la Seconde Guerre mondiale et vraiment et de la pratique aussi de la couture est l'une des périodes, de mes périodes préférées, si toutefois j'en avais, et qui est relatée par le magnifique livre de Dominique Veillon, La mode sous l'occupation, dont oui, je recommande tous la lecture, qui se lit comme un roman, et pourtant c'était la vraie vie, et c'était vraiment quelque chose d'édifiant. Non, la mode a véritablement une valeur de résistance, tout simplement parce que c'est l'un des piliers fondamentaux de la culture, de l'art de vivre à la française, et de notre savoir-vivre et de savoir-être aussi. Et ça, c'est vraiment, vraiment un moment crucial de notre histoire. Et s'il n'y avait pas eu des couturiers comme Lucien Lelong à cette époque-là, qui était président de la Chambre syndicale, ben, je ne serais pas là aujourd'hui pour vous parler d'histoire de la mode et de la haute couture, parce que tout ça aurait disparu.
Oui, donc, tout à fait.
Effectivement, non, il y a des moments charnières de notre histoire qui sont fondamentaux. Mais pour en revenir à votre question sur cette approche du contexte économique et industriel, évidemment que c'est éminent de brosser ce contexte-là dans ses moindres détails. Et à ce titre, je fais juste une petite discrétion qui se voudrait être juste une parenthèse. Aujourd'hui, cette matière, l'histoire de la mode, elle est très, 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 très plébiscitée et elle attire énormément de doctorants en histoire de l'art ou en sociologie. Et c'est vraiment une chose qui est formidable parce que beaucoup, beaucoup de nouveaux de la mode. Il n'y a qu'à voir le nombre de tables rondes et de conférences qui ont été animées là tout récemment au Festival de l'Histoire de l'Art à Fontainebleau.
Ou d'expositions au musée.
Voilà, et beaucoup de doctorants s'emparent de sujets très nichés. L'une d'entre elles, il n'y a pas longtemps, me parlait de son sujet des soyeux dans les années 1830. Comment était-elle habillée, mon Dieu. Vous voyez, il y a vraiment des sujets de recherche qui sont très, 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 très nichés et précis, et c'est vraiment heureux. Oui, donc moi j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire de la mode et à plus forte raison à l'enseigner. À ce moment-là, on était très très peu nombreux à évoquer cette matière dans les écoles. Il y avait justement Farid Chenou, Florence Muller et quelques autres personnes, mais guère plus. Et moi j'ai en fait continué à l'approcher cette matière avec mon expérience, mon expertise. Et c'est pour ça que je me décris davantage comme une conteuse, parce que quand on parle du contexte socio-économique, ou plutôt économique, de la mode au tournant des années 2000, c'est quelque chose que moi j'ai vécu au cœur d'une maison. Ces plans sociaux géants, ces restructurations absolument fondamentales, ces maisons qui tout d'un coup étaient paternalistes avec leur fondateur, créateur, fondateur à la tête, devenaient tout d'un coup une entité d'un grand groupe industriel, un grand groupe du luxe, comme on dit aujourd'hui. Et ces transitions ont été à la fois violentes, mais aussi absolument passionnantes à mettre en œuvre, et ont complètement changé le visage, la physionomie du secteur de la mode. Et ça, c'est quelque chose que moi, je suis à même de raconter, finalement, et que je raconte à mes étudiants depuis longtemps, aux Arts Déco. Donc, c'est là, en tout cas, la spécificité de mon approche. Là où les nouveaux enseignants qui arrivent armés, justement, de leur passionnante recherche sur des sujets souvent très nichés, viennent compléter finalement mon approche, ou moi je complète la leur, attention, hein, tout ceci est complètement nivelé, qui est celle d'une conteuse. Et j'aime beaucoup cette posture parce que je pense que c'est celle qui me caractérise la mieux, et parce que c'est vu de l'intérieur, et que j'ai eu la chance de connaître Monsieur Mouclier, l'ancien président de la Chambre syndicale, avant même Didier Grimbach, et que ces gens m'ont raconté beaucoup d'histoires et que j'ai conservé justement toutes ces histoires. C'est le propre même de l'historien de collecter le récit, le témoignage. Et c'est quelque chose que j'essaie de restituer aussi à la fois, enfin, dans toutes mes postures de transmission, que ce soit orale, en conférence, en enseignement, ou que ce soit dans mes livres. Je raconte finalement ces histoires. Et oui, effectivement, ce secteur a qui effectivement était dominé jusqu'aux années 50-60 par la haute couture, qui était jusqu'à l'époque de Dior dans les années 50 le bureau de style de la planète, avant même l'émergence du prêt-à-porter, c'était la haute couture. Attention, la haute couture, c'est bien plus que le show, les défilés. Non, la haute couture, c'est un modèle extrêmement précieux, parce qu'extrêmement inventif, qui va être vendu. On vendait les toiles, on vendait les modèles, les patronages, et on les vendait 60% plus cher que le modèle reproduit vraiment et sur mesure pour une cliente particulière. Et qui achetait, c'était les acheteurs, et qui étaient des confectionneurs et qui avaient acheté également l'autorisation de reproduire un détail ou le modèle tout entier avec des griffes reliées finalement. Donc tout ce système a volé en éclats avec l'avènement d'un prêt-à-porter super désirable, de plus en plus puissant, de plus en plus haut de gamme, à tel point que dans les années 90, on peine à faire la différence entre un prêt-à-porter haut de gamme et un défilé de haute couture. C'est très compliqué. Et puis après, petit à petit, effectivement, le secteur de la mode va être profondément bouleversé. Et ce terme n'est pas du tout utilisé de manière négative, mais au sens tsunami du terme, finalement, bouleversé par l'arrivée du numérique et 2010, Instagram et Pinterest plus tard, et donc toute cette approche de l'image. L'image ne devient-elle pas finalement plus importante que le vêtement, que l'objet lui-même? Ça, c'est aussi un grand questionnement. Qui est...
Oui, d'autant plus que justement, aujourd'hui, on a peut-être l'impression de retourner un peu à... Enfin, pas de retourner, mais en tout cas de constater qu'après des années d'hypervisualisation, il y a un besoin réel de matière. Et donc, même vous parliez par exemple du savoir-faire, aujourd'hui il suffit par exemple de citer l'exposition des savoir-faire qu'il y a eu au Palais Galliera, mais même, je veux dire, le nombre d'aides de l'État qu'il y a par rapport aux différentes maisons de patrimoine qui sont considérées comme du patrimoine vivant, où aujourd'hui en fait il y a une volonté de sécuriser ce savoir-faire là et ça me permet notamment d'aborder ma dernière question avec vous, qui est cette importance. Vous parlez de votre position de conteuse, mais il y a autre chose qui est très important quand on parle de mode, évidemment, c'est cette dimension du discours que la mode porte sur elle-même, puisque ça fait partie constitutive, en fait, de tout cet élément, notamment sur le luxe, du récit, en fait, et notamment sur le récit du goût français. Et je me pose la question, parce que je me dis que, comme aujourd'hui, c'est vrai qu'on voit une évolution aussi de l'Europe qui a une place dans le paysage géopolitique, qui est en train de se repositionner, l'importance aussi de la mode française en tant que soft power est absolument indispensable. Donc, est-ce que vous abordez aussi les questions d'identité nationale et notamment de la constitution d'un goût français dans vos cours, pour vraiment comprendre cette position nationale que peut avoir la France dans ce paysage de la mode ?
Effectivement, avec l'émergence des grands groupes financiers, arrive ce qu'on appelle le storytelling et ce fameux récit qui devient...
Qui existait déjà avant, puisque Charles-Frédéric Wörth a notamment beaucoup tablé là-dessus.
Oui, absolument. C'est vrai qu'il a fait, mais avant, la première étape, c'était faire de la griffe un signe supérieur presque aux vêtements. C'est-à-dire que
Oui,
la
tout à
griffe,
fait.
la valeur ajoutée pour Bouvard, c'est la valeur ajoutée créative, c'est-à-dire qu'il signe ses vêtements comme un peintre signe sa toile. Et ça devient la griffe. La griffe qui était un élément commercial hein, que les Britanniques utilisaient hein, pour effectivement indiquer la marque sur les produits qui partaient à l'exportation. Et les Britanniques étaient des grands colons, donc des grands exportateurs.
Oui, tout
Mais
à fait.
ce principe, effectivement, est devenu, a pris une ampleur beaucoup plus importante. À partir du moment où vous mettez un logo Cassandre sur un t-shirt, le logo Cassandre, c'est le logo Saint-Laurent ancien, sur un t-shirt, vous le vendez beaucoup plus cher que la valeur même du t-shirt, parce que, effectivement, c'est un vêtement griffé. Et c'est trompeur, ça peut devenir trompeur. En tout cas, il peut y avoir un élément. Qui viennent, oui, perturber la lecture même de la qualité à partir du moment où les logos deviennent trop visibles. Alors ça, c'est des choses qui arrivent déjà dans les années 1990, mais on a même dépassé ce stade-là, puisqu'aujourd'hui, effectivement, les maisons, quand elles ont racheté, enfin les groupes, pardon, financiers, quand ils ont racheté les maisons, ont racheté pas seulement le droit d'utiliser le nom, et les structures même, voire même repris les salariés. Non, ils ont racheté aussi les archives. Et ça, c'est fondamental, parce que tant qu'on n'a pas les archives, on ne peut pas réinterpréter le style. Et pour réinterpréter le style, il faut une base, il faut une matière. Donc, ces archives, soit physiques, soit documentaires, nous, on avait les deux chez Saint-Laurent, dans d'autres maisons, elles s'organisent différemment. Mais plus elles sont nombreuses et denses, et plus la maison va pouvoir réinterpréter le style.
Oui, mais alors, je vous relance sur ma question pour terminer. C'est la question justement du goût français, comme je disais. C'est-à-dire, est-ce que vous abordez aussi et vous regardez la dimension de ce que c'est que nationalement, en tant que pays et nation, se définir comme. Enfin, parce que la France se définit aussi beaucoup comme dictatrice du goût, entre guillemets. Et donc aussi cette importance que peut avoir le rayonnement vraiment français, international, pour constituer en fait un rapport à la mode d'une certaine façon.
Alors, je pense que si on parle du style et seulement du style, ce serait difficile de faire préexister en mode de domination le style français. Si on parle même de l'art de vivre à la française, même en gastronomie, ce serait difficile parce que la gastronomie s'est beaucoup mondialisée et j'ai envie de dire c'est heureux.
Oui.
Par contre, je pense que les maisons aujourd'hui, pour actionner ce mécanisme que vous évoquez, cette idée de mettre la nation France en avant, il y a bien une chose qui est utilisé, c'est le levier du savoir-faire.
Tout à
Et c'est
fait.
là où, effectivement, cette manière de marketer le savoir-faire, d'en faire une sorte de brosse à luire, c'est pas très positif ce que je suis en train de dire, pardon, mais en tout cas de mettre en avant l'idée que on est légitime dans le monde du luxe si on détient effectivement l'histoire, mais aussi si on sait faire. Et si on sait faire, c'est qu'on protège les gens qui savent faire. Et si on
Oui, c'est une
protège
question
les
de
gens
patrimonialisation.
Voilà. Donc, toutes les démarches, effectivement, de rachat de ces vieux ateliers voués à disparaître parce que l'économie s'est mondialisée et que c'est bien sûr beaucoup trop cher de faire fabriquer en France, donc ces ateliers disparaissent. Les protéger, et c'est le rôle et la mission que se sont donné beaucoup de grands groupes financiers et de grandes maisons aujourd'hui, on le sait parfaitement, hein, Chanel, Dior ont tous développé cette posture de mécène. À proprement parler et valorise aussi ce patrimoine-là. Mais attention, danger. Attention, il faut aussi jamais oublier qu'un savoir-faire appartient avant toute chose, en tout cas, translate à travers les mains d'un être humain qui est un artisan, souvent complètement invisibilisé et qui ne cherche pas à l'être du reste. Hein, parce que si vous mettiez sur une étiquette d'un vêtement de haute couture toutes les mains qui ont concouru à sa confection, l'étiquette, elle serait pas assez longue. Hein. Donc, on met juste la griffe et c'est tout. Mais il y a effectivement énormément de personnes qui interviennent et qui sont des fées et qui sont des génies créatifs. Parce que oui, l'artisanat, c'est pas seulement exécuter, c'est aussi créer. Ça, j'en suis pleinement convaincue. Pas nécessairement innover, quoique, mais si. Mais en tout cas, il y a une forme de création, mais qui est, encore une fois, qui peut être guidée par un styliste ou qui peut être le savoir-faire français et un levier qu'actionnent aujourd'hui certainement beaucoup plus le monde et les grands dirigeants du secteur du luxe et de la mode que celui du style à proprement parler, puisque nous sommes dominés en Occident par le streetwear, hein, tout simplement, une sorte d'urban wear, une mode confortable qui n'est plus étiquetée ni française, ni américaine, ni voilà, qui a évidemment un point de départ historique pendant des années 80 aux États-Unis. Mais aujourd'hui, parler de style français, à mon sens, est insuffisant pour mettre en avant la nation France. Hein. C'est vraiment les savoir-faire qui font office de levier pour ce faire.
Bah écoutez, c'est une très bonne façon de conclure là-dessus, et j'enjoins notamment les auditeurs de Décousu à aller regarder un peu les épisodes qu'on a fait avec des artisans où justement on parle pendant longtemps de leur métier, de leur rapport à la matière, leur formation, leur place dans le secteur, etc. Mais pour conclure, évidemment, si je vous reçois, c'est évidemment parce que l'actualité... Enfin, votre actualité est assez propice à cet échange. Donc, est-ce que vous pourriez un peu nous parler des cours que vous dispensez à PSL et également des ouvrages que vous avez écrits pour qu'on puisse approfondir un peu ces questions ?
Oui, alors PSL, effectivement, est cette université qui englobe un certain nombre d'enseignes de l'enseignement supérieur, dont l'École des arts décoratifs où j'enseigne depuis... 16 ans maintenant. PSL a décidé de développer un catalogue de cours du soir, un peu à la manière de l'École du Louvre, sur des sujets qui concernent évidemment tous les écoles qui sont dans le giron de PSL. Et ils m'ont confié donc ce cours d'histoire de la mode. Ils m'ont demandé de construire un syllabus, donc un projet, hein, véritablement pédagogique autour de ce cours. J'ai trouvé que l'objectif était extrêmement challengeant et effectivement, j'ai construit ce cours autour de la matière, l'objet et l'image et le discours que campe le vêtement à proprement parler.
Et donc, si on veut y assister, comment faire pour y assister, par exemple?
Alors, on peut y assister en présentiel. Ce sera rue Amyot tous les jeudis soirs à 18h30. Enfin, pas tous les jeudis soirs, un jeudi sur deux. Il y a le planning sur le site de PSL pour ceux qui nous présentent le catalogue de ces cours. Donc, c'est un jeudi sur deux à partir du mois d'octobre en soirée, donc de 18h30 à 20h. C'est pendant 1h30. Et qui est un format très confortable, à la fois pour dire plein de choses et puis aussi voilà, pour ne pas être assommé par trop d'informations. C'est un cours que j'anime donc soit en présentiel en ce qui me concerne et qui sera aussi disponible en visio et en replay. Les tarifs sont évidemment différents en visio et en replay qu'en présentiel. Donc notre objectif était de ne pas toucher essentiellement un public parisien, ça j'y étais très très attachée, mais de pouvoir, avec nos moyens actuels tout à fait efficaces, aussi aller chercher des auditeurs en province. Ce cours est accessible à tout le monde, aussi bien experts, néophytes, passionnés, curieux, plus âgés, très jeunes, peut-être pas 7 ans, mais en tout cas de 17 à 77 ans et largement plus, 107, allez, on va y aller. Puisque mon but est encore une fois d'apporter des informations oui très précises mais toujours d'une manière audible et intelligible, ça c'est très très important. Je ne veux pas faire quelque chose oui c'est vraiment toucher le grand public. Moi c'est ça a toujours été mon approche aussi bien éditoriale. Alors effectivement, s'agissant des publications, vient de sortir l'atelier de la couturière qui est le petit dernier d'une collection qui s'appelle Talents et savoir-faire. Je suis aujourd'hui auteure-éditrice indépendante après avoir travaillé presque une dizaine d'ouvrages avec l'édition traditionnelle et les éditions Erol en particulier. Donc, j'ai pris mon indépendance pour pouvoir choisir mes thématiques plus aisément et surtout travailler sur des sujets nichés qui sont difficilement acceptable par l'édition traditionnelle et donner à voir justement tout ce qui se passe sous les radars de la grande histoire de la mode et raconter les invisibles et de l'histoire de la mode qui sont ces artisans d'hier, d'aujourd'hui, d'autrefois et qui sont aussi parfois à nos arrière-grand-mères qui pratiquaient certaines techniques comme des artisans d'art aujourd'hui.
Voilà. Bah, tout à fait. Et bah, écoutez, j'enjoins en tout cas tous les auditeurs et auditrices à aller regarder vos écrits, vos publications et également à s'inscrire donc, pour ces cours du soir. Bah, écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup, Guénolé. J'espère que c'était un bon moment pour vous.
Oh oui, un grand plaisir, toujours. Merci beaucoup, beaucoup pour ce moment de partage et d'échange et pour la pertinence de vos questions. C'était un vrai plaisir d'y répondre.
Eh bien, merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée. Puis bah, j'espère à très vite alors.
Également, à bientôt. Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de Décousu, le podcast qui dénoue le fil de la haute couture et de la mode. Et bien sûr, un immense merci à Guénolé Milleray qui est venu parler de son expertise et nous présenter ses fameux cours du soir, auxquels encore une fois, je vous invite à vous inscrire sans tarder. Et surtout, ce qui est assez génial, c'est que ça nous rappelle encore une fois que la mode est le promontoire, peut-être pas idéal, en tout cas un des promontoires les mieux disposés à nous faire comprendre l'histoire de notre humanité, non seulement d'un point de vue individuel, que d'un point de vue global, en tant qu'élément constitutif d'une société avec ses codes qui nous dépassent et pourtant nous définissent. Moi j'espère que cet épisode vous a plu, évidemment je vous invite à aller rejoindre l'épisode sur l'Instagram Décousu Podcast, à le partager autour de vous, à suivre le podcast sur votre application de podcast, mettre une note, mettre un commentaire, voilà, faites ce que vous voulez, mais entrer en interaction c'est un formidable moyen de donner votre avis et sachez que je réponds à tout. Alors moi je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode et j'espère que ce dernier vous plaira comme celui-ci vous a plu. Merci encore et à très vite !